marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. La mer, le thème de nos rediffusions cette semaine.
Il est certain qu'il faut un regard historique pour comprendre le temps présent.
Saint-Pierre-et-Miquelon, station, service de la grande pêche, années 60-80.
Saint-Pierre-et-Miquelon, deux noms inséparables qui chantent dans la mémoire depuis l'école. C'est aussi à 4000 km de Paris, 240 km² de France. C'est même un coin de Bretagne et de Pays Basque réunis sous les brouillards de Terre-Neuve. Autour de son clocher vit ainsi sans histoire une population de Basques, de Bretons et de Normands, descendants des premiers pêcheurs établis dans l'archipel. Comme à Landerneau, les enfants jouent à la marelle. Et comme à Saint-Jean-de-Luz, d'autres se retrouvent devant le fronton de Plot.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
D'un coup, tous les clichés sur Saint-Pierre-et-Miquelon tels qu'on peut le voir depuis la métropole. C'est un son extrait des actualités cinématographiques de 1963, c'est-à-dire en plein dans la période d'ébullition que nous allons raconter. Un élève du lycée Le Tournel qui s'appelle Alexis.
Alors,
Alexis Le Tournel.
Oui,
c'est ça que je voulais vous faire dire.
Exactement.
Il y a peu de noms qui circulent à Saint-Pierre-et-Miquelon. Beaucoup de grandes familles. Et depuis que vous êtes arrivé avec votre classe à Paris, vous entendez le même type de remarques, de questions, de clichés.
Oui. En fait, en général, on ne sait pas placer Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, souvent, on le place l'île dans l'océan Indien. Et quand on aide à situer Saint-Pierre et qu'on dit que c'est proche du Canada, on s'imagine que toute l'année, il fait moins 20.
Et que vous vivez dans des igloos.
Oui, c'est ça, à peu près, dans des igloos, avec des peaux de phoque sur le dos. Et on mange de la glace toute l'année.
Encore que le premier habitat intérimaire, c'est celui des paléo-esquimaux. Et vous avez le seul site paléo-esquimaux de France sur l'archipel. Vous êtes la France d'Amérique, mais vous êtes aussi des Américains. Français, on aura l'occasion de le dire. Alors, ce concours, Cédric Borter, un des professeurs qui accompagnait cette classe, s'appelle Euroscola. Et vous avez décidé de mener des reportages. Vous le saviez, reporter, Alexis, votre professeur, Cédric Borter?
Pas du tout, je viens de découvrir ça.
Excellent, nouvelle. Reporter.
Ah, wow. Ouais.
Surtout qu'il travaille avec un ingénieur du son aussi, Frédéric Fouchard, alors ça aide. Vous avez décidé de consacrer tous les reportages qu'on va entendre aujourd'hui sur ce moment où Saint-Pierre-et-Miquelon était un hub. C'est une terre ingrate au milieu d'une mer fertile, et il fut 2-3 décennies où le monde entier venait chez vous pêcher.
Oui, exactement. Donc, je suis allé à la recherche de témoins de cette histoire, comme vous me l'avez proposé. Et donc, ça a été un vrai plaisir de discuter avec, avec toutes ces personnes.
Haute en couleur, parce que c'est comme l'économie de cueillette, Saint-Pierre-et-Miquelon. On s'arrête à chaque instant et on peut cueillir un récit. Surtout Elisa Villain, qui a des formidables personnalités. Tenez, vous allez nous camper le portrait du premier interviewé de Cédric, qui est un capitaine de chalutier, Laurent Quédinet.
Donc en effet, Laurent Quédinet, qui est un natif de l'île aux Marins.
L'île aux Marins, c'est une île au large de Saint-Pierre.
Il correspond tout à fait à l'image que l'on se fait du marin Saint-Pierré. Donc il est assez petit et trapu, avec de larges mains abîmées par des années de travail sur les bateaux. Et une simple discussion avec lui nous permet de faire un saut dans le temps, et notamment au niveau des expressions qu'il utilise, aujourd'hui moins courantes dans l'archipel.
Saut dans le temps, c'est juste l'époque de vos grands-parents. On va parler avec lui de la manière dont la pêche Saint-Pierrais s'est étendu dans ces années 60-80, parce que la tradition chez les pêcheurs Saint-Pierrais, c'était de pêcher, je veux pas dire tranquillement, mais de telle sorte qu'on pouvait rentrer le soir chez soi.
Oui, c'était une pêche artisanale avec l'utilisation du doris, et donc ici, on va plutôt avoir quelqu'un qui va nous parler du chalutier classique.
Oui, et le chalutier classique nécessite un temps d'embarquement plus long, mais quand il y a des centaines de millions de morues après la Deuxième Guerre mondiale, ça vaut le coup.
Le bateau, il faisait 42 mètres. Suivant les formes où on peut pêcher, on sait si on aura de la morue ou bien du nan ou bien du balai. Le balai, on ne peut pas se tromper, hein, le balai dans les pêchers. À la cour de l'Est, dans l'Est de Saint-Jean, là-bas, c'était loin. Et lui, le balai, on allait le pêcher plutôt au printemps. Parce qu'au printemps, il y avait beaucoup d'icebergs. Et puis on pêchait autour. Puis là, à Mourue, on a pêché l'hiver. Au pont de Saint-Pierre, ici, là, ou dans le golfe du Saint-Laurent, avec les chalutiers français, justement. On pêchait ensemble. La raie aussi, hein, la raie était exportée, mais les gars, ils n'étaient pas trop enragés pour travailler la raie. Quand bien souvent, ils se regardaient par le haut, là, je dis, oh, qu'est-ce que tu fais là? Ils ouvraient le dallot, c'est où l'eau s'en va là.
Oui.
Ils ouvraient le dallot, puis.
Ils viraient la raie?
Ben, ils viraient la raie, tu vois bien.
Mais pourquoi c'est pas.
Ben, parce qu'il y avait beaucoup de poissons sur le pont, quoi, tu vois, alors ils ne s'embêtaient pas à travailler, quoi. Hein. Il y a des piquants partout, puis il faut savoir à travailler, quoi. Hein. Celui qui sait, il va très vite. Mais celui qui ne sait pas, c'est pas pareil. Hein. Le rouget, c'est pareil, le rouget. Incroyable, le rouget, ce qu'on pêchait. Oui, on chargeait de rouget. Et le rouget, c'est marrant, c'est un poisson qu'on pêche le jour. La nuit, on n'en prend pas dans le chevet. J'ai vu pêcher deux ou trois paniers la nuit, puis dans la journée, des dizaines de milliers de livres.
Alors, faut être technique, Cédric, ça, c'est la méthode du chalut de côté.
Oui, c'est ça, le chalutier classique qui pêche avec son chalut sur le côté, exactement.
Et puis, il y a aussi le chalut arrière, tel qu'il est pratiqué par un nouvel interlocuteur qui est Étienne Rebman.
Ils ont sorti le pêche arrière. On a été les chercher au Havre, la goélette et puis la Normande qui était construite au Havre. Bon, j'ai fait près d'une vingtaine d'années sur la goélette et puis la Normande. Puis là, on gagnait bien notre route parce qu'on a gagné de l'argent avec des chalutiers. On a des chalutiers modernes, on a payé du poisson à l'époque. Hein. On rentrait chargé, au bout de 6 jours, on rentrait chargé à des fois. On a 300 tonnes de morue. Hein. Que nous, plus on pêchait, plus on gagnait de l'argent. Hein. On avait des machines, les bateaux étaient propres, bien entretenus. Hein. Après, tu avais fait ton voyage pendant 3-4 jours en mer ou quoi, hein. Et tu restais moins longtemps en mer. Mais tu rentrais beaucoup plus de poissons aussi. Là. Viens, sa photo là, t'as la Normande qui est à quai, qui est vide. T'as le Saint-Denis qui débarque. Ça, c'était au mois de décembre. Hein. Gagne la goulette en coupe, qui est chargée à bloc. Il y a 300 tonnes là-dedans. Puis l'autre qui débarque. Tu te rends compte, le poisson qu'il y avait qui est rentré dans l'usine, plus de 400 personnes qui travaillent à l'usine. Tu te rends compte tout ça, genre.
L'usine frigorifique?
Oui, c'est l'usine frigorifique, exactement. Donc la flotte locale ramenait son poisson à terre, elle était traitée sur place, donc avec cette
spec,
usine.
Spec, puis Interpêche.
Spec d'abord, donc ce qu'on appelle localement le vieux frigo, qui est là où accostent aujourd'hui les navires de croisière. Et ensuite, au début des années 70, ça s'est modernisé, ça s'est déplacé aussi, c'était plus à l'abri pour les navires. Et on a appelé ça les usines Interpêche.
Juste une remarque, Alexis Le Tournel. Il n'y a pas un peu d'accent ou des accents très différents à Saint-Pierre et Miquelon? On vous pose d'ailleurs sans cesse la question, est-ce que vous parlez comme les Québécois?
Alors non, l'accent Saint-Pierre n'est pas du tout québécois, mais il y a quand même un petit accent donc au niveau de la prononciation.
Un petit accent, je dis ça à l'intention d'Audrey Ripouille, qui a réalisé cette émission. Alors, le chalut de côté, le chalut arrière, je vérifie auprès de Audrey Ripouille, tout ça est bien acquis. Les Espagnols, avec le chalut arrière, vont faire mieux encore. Alors aussi, un de vos intervenants préférés, c'est Guy Paturel. Pas d'accent du tout, vous allez voir, Audrey. Guy Paturel...
Oui, Guy Paturel, donc c'est un consignataire de navires.
Consignataire,
donc il s'occupait des navires étrangers, en particulier les navires espagnols qui pêchaient en paire.
Les Espagnols, ils pêchaient en parejas, c'est-à-dire en paire. Okay. En paire. Alors, les bateaux, ils avaient chacun leur chalut et ils s'écartaient pour ouvrir la gueule du chalut. Et ils traînaient ensemble à la même vitesse, parce qu'il fallait là aussi, bon, parce que c'était une méthode de pêche qui permettait d'avoir un chalut beaucoup plus grand. Avec une gueule énorme. Alors, comme c'était des petits bateaux, c'était des bateaux qui étaient, disons, assez dangereux.
Et puis souvent on les voyait partir en mer, là, le bateau était chargé parce qu'il n'y avait pas de cargo, et l'eau passait presque. On dit, mais comment ils vont faire en pleine mer? C'est la simonerie qui va recevoir là-bas, quoi. Ampère, oui, Ampère, et ben ils partaient à deux, quoi, et puis tout bien fermé, ça fait qu'ils ne coulaient pas, mais j'aurais pas voulu en avoir. Hein.
Moi, j'ai toujours dit que ces gens-là, c'était des seigneurs de la mer, parce que travailler dans les conditions qu'ils ont travaillé, fallait le faire, ah oui. C'était tellement dur. Et des gars qui étaient, surtout au début, avec tous les Basques, après ça s'est un peu détérioré la qualité des équipages, mais au tout début, les 10 premières années, c'était des seigneurs. Ah oui, c'était des gens, alors toujours gentils, toujours polis, toujours serviables, etc. Mais dur, mais très juste. Après, comme je dis, ça a changé. Mais quand tu voyais sur ces bateaux-là, il y avait un capitaine et un patron de pêche. Le patron de pêche, c'est lui qui s'occupait que de la pêche. Parce que le capitaine, c'était un capitaine de la marine marchande ou capitaine au long cours. Parce que là, comme je disais, il fallait qu'ils mettent, pour traverser l'Atlantique, il leur fallait des capitaines au long cours. Il ne faut quand même pas oublier qu'au moment-là, ils n'avaient pas de radar, pas de Lorraine ou de GPS, parce que le GPS, c'est quelque chose de...
Bien plus tard.
Bien plus tard, c'est tout raison, le GPS.
Oui.
Hein. Et puis, ils n'avaient rien. Ils avaient en tout et pour tout un compas, un radiogodiomètre, hein. C'était quand même un gros progrès, puis le sondeur.
Pour savoir
sondeur. S'il arrivait sur du parfois, bord. J'ai vu, le deuxième bateau n'avait même pas de sondeur. Et on a remis les premiers radars, mais ça a été les premiers radars, ils ont eu combien dans les années, au début des années 60, au tout début, comment se faisait-il pour partir, par exemple, du bon Anvers qui est là, disons à combien, 100 000 d'ici à peu près, pour venir à Saint-Pierre, avec de la brume, mais alors, à couper au couteau, c'est le bon moment de le dire. Puis ils arrivaient ici, ils ont toujours trouvé la bouée de la Grand-Basse ou la bouée du Nordais. Ils arrivaient toujours à rentrer dans le port de Saint-Pierre. Je dis chapeau des gens qui savent naviguer comme ça, parce que c'est pas facile. Hein. Mm-hmm. C'est les courants, le vent, le machin. Puis on a, c'est vrai qu'on n'en a jamais eu qui se sont perdus en rentrant à Saint-Pierre ou en sortant de Saint-Pierre. Bon, ils ont frôlé les cailloux souvent, hein, ils ont frôlé les icebergs souvent, oui. Mais on avait, en fin de compte, il y a eu peu de bateaux qui ont coulé. Ils savaient réellement naviguer. Ils avaient, un sixième sens, ni un huitième sens, un dixième sens peut-être de machin, ils savaient comment faire.
C'est qu'il n'est pas facile, Cédric Border, ce port à l'entrée. Oh,
le port n'est pas facile. Et il y a beaucoup de courants, comme le dit Monsieur Paturel, il y a des basses aussi, et puis il évoque également la question de la visibilité avec la brume, donc on a une expression locale, hein, quand la brume est épaisse, on parle d'une brume à couper au couteau.
Oui, et la brume, elle vient par tous les vents. On vous pose des questions, j'imagine, Alexis, quand vous êtes à Paris, sur le climat de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Oui, 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 souvent. Mais alors, c'est vrai, il y a de la brume. Il me semble que l'été dernier, on a eu presque le moment le moins ensoleillé, presque un record du monde, donc faut pas s'attendre à avoir du soleil.
Et puis quand la tempête parle, il faut l'écouter parce qu'elle se fait entendre. Alors, Bernard Folliot, il veillait à tous ces dangers quand il tenait la station météo.
Madame Escoublé, la femme de Polo, Monsieur Folliot, je dirais, elle était toujours sur sa fenêtre, elle écoutait la radio, elle connaissait, elle aurait pu être radio, je dis presque. Bref, donc Mme Escoublé me dit, Monsieur Folliot, il y a un bateau blanc là qui, je sais pas si c'est pas le Timonos, qui rentre, il veut rentrer par la passe du Suet. Oh, j'avais pas grand temps pour réagir, hein. Départ en VHF, White Ship, Saint-Pierre, stop, Soutis, Saint-Trans, no admitted. Ok, oh, le gars était surveillé. Il a stoppé les machines, je suis marché arrière. Ensuite, on avait le bateau dans la face du Suet. Ah, il y a eu des drames aussi. Hein. Mmh. Ah, il y a eu des drames de nuit. Moi, je rappellerai toujours un qui m'avait marqué. L'Espagne m'appelle de nuit, Radio Maritime, par la terre. Et puis, c'était la famille. Ils voulaient parler à tel bateau, le capitaine. parce que la femme s'était fait renverser, était morte par une voiture. Sa sortie était sur une route nationale, une petite route nationale en Espagne. Elle avait été renversée, et puis donc il fallait viser le capitaine pour le marin qui était à bord. Quoi. Et puis 2 heures après, le capitaine lançait un mal à mer, le mari s'était foutu par dessus.
Il était sur les bancs en train de pêcher au moment-là.
Il était sur les bancs en train de pêcher, puis il a perdu la tête, quoi, de savoir que sa femme était. Il a perdu la tête, il n'a pas tenu, quoi, et puis il s'est foutu par dessus.
Un frère des grands bancs, une vie à la mer. T'es tombé à la mer, loin des côtes de France. Quand soudain tu renais dans des bras portugais. La 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 la. Quand soudain tu renais dans des bras portugais.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dans cette émission avec le lycée de Saint-Pierre-et-Miquelon, il fallait faire sa place à un grand enseignant, au chanteur de référence de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est Henri Laffitte. Des bras portugais. Des bras portugais, Cédric Porter.
Oui, portugais, bon, c'est pas un hasard, parce que les portugais, comme vous le savez, sont parmi les premiers Européens à avoir fréquenté les côtes de l'Amérique du Nord. Donc voilà, comme Fagundes, par exemple, pour Saint-Pierre-et-Miquelon au début du XVIe siècle.
Et alors, à l'époque qui nous concerne, les années de hautes eaux de la pêche industrielle, ils sont encore sous la dictature de Salazar puis de Caetano, et ils continuent à venir.
Continue.
Sur les mêmes types de bateaux avec des doris en étoile qui partent des bateaux qu'avant la guerre.
Oui, ils continuent à pêcher à la voile. Ils fréquentent plus le port de Saint-Jean que celui de Saint-Pierre, mais on a aussi des chalutiers pêche arrière ou classique portugais qui peuvent aussi trouver refuge aussi à Saint-Pierre puisque Saint-Pierre est un port abrité et beaucoup de navires aussi venaient pour se mettre à l'abri au mois de septembre, octobre ou novembre.
C'est pas à eux qu'on peut reprocher d'avoir trop raclé les océans avec des méthodes industrielles très moderne. Tout à l'heure, j'ai dit Bernard Folliot tient la station météo. Il faut être très exact à Saint-Pierre parce qu'on est sous le regard de chacun. Il tient bien sûr la station radio à l'époque que nous évoquons. Puis maintenant, il tient un superbe jardin. Il y a un dicton qui dit « Il n'y a pas plus de pommes sur les arbres et fruitiers de Saint-Pierre qu'il n'y a d'or dans la poche des marins. » Si, à l'époque, à force de travailler, à condition d'être debout tôt, à l'époque de la station-service internationale de la pêche, ainsi que vous le dit Guy Paturel, il y a pas mal d'or dans la poche des Saint-Pierrais.
Papa me dit, écoute les bateaux qui rentrent. Bon, mais oui, va bouffer vite fait, hein. Parce qu'on est allé à la messe, parce qu'on est allé à la messe, dans la messe de 6h du matin, c'était la Toussaint ou comme ça. Va vite faire ton petit déjeuner parce que tu peux descendre sur les quais, il y en a plein partout. Bien sûr, non, mais moi j'avais une bécime comme il ou chose comme ça, mais encore est-ce que, ou j'avais ma moto encore dans le train, j'étais même pas de bagnole pour les servir. Puis c'était du boulot. Hein.
Alors qu'est-ce qu'il voulait?
Enfin, il rentrait. Parfois, il repartait que le lendemain, assez vite, mais fallait faire tous les papiers, fallait faire tous les machins, fallait leur donner de l'argent pour les équipages, fallait. Puis la journée-là, le premier machin, la banque était fermée. Alors, j'allais toc 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 chez le directeur pour qu'on puisse ouvrir le coffre et puis me donner du fric pour tous des machins comme ça.
Vous deviez faire ça pour des dizaines de bateaux en même temps.
Des dizaines de bateaux en même temps. Ah, j'ai vite appris. Hein. J'ai vite appris l'espagnol aussi. Hein.
Et donc ce service, c'est le fait de consigner le navire.
Alors, on était consignataire de navire, mais consignataire de navire, c'est un grand mot. Ouais. Ça englobe tout.
Tout.
C'était l'agent maritime dans son intégralité, si tu veux. Mmh. Hein, où on prend le bateau quand il rentre ici, dans le port, et on lui dit au revoir quand il s'en va. Entre-temps, on lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Y compris des réparations, y compris des réparations électroniques, de l'avitaillement, du fuel.
Le pilote.
Et on avait un port qui était relativement bien équipé. On avait surtout du monde pour travailler. Parce qu'il y avait énormément de dockers et de toute façon, tout le monde, au moment-là, tout le monde travaillait. Et on travaillait 7 jours sur 7, de 7h30 le matin, jusqu'à minuit le soir. Le samedi, on s'arrêtait à 7h le soir, et le dimanche, on s'arrêtait à 7h le soir aussi, hein, pour avoir quand même un peu de machin. Mais dans la journée, on avait des gens les gens ordinaires, ou même pendant et pendant les vacances, on avait les élèves du collège ou du laïque, comme on disait. Oui. Hein, les garçons, à partir de 14 ans, ils allaient, oui. Même certains, quand même, certainement même moins de 14 ans. Et puis moi, j'aimais bien. Je descendais en chantant. Hein. J'adorais ça. Oui. J'adorais ça.
Alors, les chansons, le temps des balles, telles qu'évoquées par Henri Lafitte. Vous vous souvenez du nom, Alexis, des dancings de Saint-Pierre?
Il me semble qu'il y avait l'étoile.
Et, oui, ça, on l'a entendu.
Alors après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas si le Joinville, donc, qui existe encore aujourd'hui, était d'époque.
Ben, vous pensez, il fait référence à la visite du prince de Joinville, le fils de Louis-Philippe, à propos de visite, quand Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, vient à Saint-Pierre-et-Miquelon, aussitôt après le préfet, qui va-t-il voir? Le patron du Joinville, bien sûr.
Où est passé le temps des balles? Y a comme celle avec sa voix étoile. Nuits animées de rêves partagés. Le port grouillé de mille feux. Du grand large comme la fiévreux, à l'entre-deux des soirs heureux.
Les Espagnols, ils étaient un peu bruyants quand ils descendaient des toiles. Alors, tout au fait, quand ils ont chanté le dernier hymne qu'ils avaient entendu dans la salle de danse.
C'est le chant des Amigos.
Le chant des Amigos, ils descendaient la rue Bourchin, et j'ai vu, moi, très vite, l'étoile est finie, regardez moi monte, et ça, bon. Alors, l'étoile, le Sélect, le Biarritz, quand on disait Biarritz à l'époque, Franck est au Biarritz, c'était une ruée vers Biarritz.
Il reste aussi un café espagnol extraordinaire. À moins qu'il ne faille dire basque.
Oui, oui, on a encore un café qui est tenu par un ancien marin, donc José ou Checho, qu'on l'appelle aussi localement. D'ailleurs, il est toujours ouvert et Checho a pratiqué la pêche sur les bœufs, comme on dit, les chalutiers en père espagnol pendant des années aussi.
Jean Rechet, le grand capitaine de Fécamp, l'auteur du Grand Métier. Un soir à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça vaut une semaine à Terre-Neuve.
Oui, Jean Rechet l'écrit dans son témoignage, Le Grand Métier. Et effectivement, il raconte que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus festif hein, de venir fréquenter en escale le port de Saint-Pierre que plutôt que celui de Saint-Jean, juste à côté, mais qui est canadien.
On ne voit pas encore de Polonais à notre horizon, ni non plus d'Allemands et de Russes. Il y avait aussi des Allemands de l'Est dans cette haute époque, et des Russes. Ceux-là, à mon avis, ils ne descendaient pas beaucoup à terre.
Qu'est-ce qui change avec les Allemands, là?
Ben, c'était plus pareil. Premièrement, c'était pas du poisson salé. C'était des poissons congelés, mis sur des gens. Donc quelque chose qu'on ne connaissait pas ou peu. Et là, avec les Allemands, il a fallu faire de la réelle logistique. Les bateaux n'arrêtaient pas. Ils commençaient ici au mois de mai. Ils ont commencé au mois de mai, ils allaient jusqu'au mois de décembre. Quand le hareng était tellement en quantité industrielle.
Ah, c'était pas la morue, les
Allemands? Non, c'était eux, c'était au début, c'était la morue l'hiver. Le hareng l'été. Un bateau, il rentrait ici, il avait 850 tonnes de filets de hareng, hein, 150 tonnes de farine et 50 tonnes à peu près d'huile de poisson, quoi, d'huile de hareng, etc. Il fallait transporter ça en 3-4 jours, ravitailler le bateau, puis refaire tout ça. Mais là, c'était plus, on travaillait plus sur les mêmes quantités. Et là, il fallait réellement. C'est là que l'organisation allemande, on était bien avec tous les armements, tous les représentants qui étaient là, ils nous ont appris. Moi, je ne dis pas que j'ai pas pu l'apprendre tout seul, c'est les représentants qui sont ici, mais il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. C'était pas des chalutiers classiques, premièrement, c'est des chalutiers à pêche arrière. Et puis on a commencé avec 4 chalutiers, à peu près, 4-5 chalutiers la première année. L'année d'après, ils sont arrivés à 10, 12, 15 chalutiers modernes là, qui avaient comme ça. Normalement, ça n'a pas duré plus de 5 ans. Il nous avait dit, de toute façon, au bout de 5 ans, il n'y aura plus de harangues. Alors, dans les dernières années, après, bon, ben là, il y a eu toute la grosse flotte russe qui était là, tout le monde était là en coin. La pêche a diminué, ben, ce qui était normal, parce que là, on commençait déjà l'overfishing. Hein, et puis, bon, il y avait des bateaux, il y avait des milliers de bateaux sur le Grand Banc. Ils ont ratiboissé tout ça, en deux temps et moins de mouvement. Il fallait voir un peu les bateaux-là, qu'est-ce qu'ils avaient. Les chaluts, la grandeur des chaluts. Parce que la flotte russe, c'était fou.
Ils prenaient encore plus que les autres.
Ah, bah oui, puis ils prenaient tout, mais ils prenaient tout, mais ils gardaient tout. Ça, ils remettaient rien à l'eau. Hein. Ils faisaient de tout, mais t'avais une flottille soviétique arrivée, t'avais 1000 bateaux qui arrivaient d'un coup.
1000 bateaux.
Oh ouais, 1000, comme tu aurais dit 500, mais oui. T'avais les gars, ils disaient sur les bateaux, mais de loin, on voyait de la lumière comme si c'était une ville.
Voilà, les racleurs d'océan ont eu raison du poisson. Immense crise, comparable à la crise de la mine dans les pays charbonniers, la mono-industrie qui s'effondre. Tout qui fout le camp d'un coup, semble-t-il, à la fin des années 1980. Alors les étrangers sont partis depuis longtemps. Les Saint-Pierrais, qui n'ont pas la première responsabilité dans la surexploitation, eux, ils doivent en essuyer les conséquences. Alors quel lendemain pour nos amis les élèves du lycée Le Tournel.
Alors, plus d'usine, plus de bateau, bien et tout. Hein. Alors, on compte, non? Tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a, le savoir-faire qu'on a eu. Même pour les marins, tout ça, il n'y a plus de marins ici, hein, et tout. Hein. Le savoir-faire des marteaux qu'il y avait ici, les ramondeurs, tout ça, là. Tous les jeunes, donc, c'était des maudits marins.
C'est la mer qu'aucun de sang. Mon pays. Son histoire en déchirure, mon pays, ses déboires, ses morsures, mon pays, sur les grands bancs de l'épreuve, mon pays, saura-t-il faire peau neuve?
Alors Esther, qu'est-ce que vous allez faire, vos camarades et vous? Parce que là, c'est l'année du bac. Vous restez à Saint-Pierre le dernier été, après le bac, mais après?
Après le bac, on n'a pas de formation possible à Saint-Pierre. Alors on est obligé de choisir une destination pour étudier et chaque été, à la fin de l'été, on s'en va vers la destination choisie. Et cette année, dans nos classes, une vingtaine d'élèves s'en vont en France et 5-6 élèves s'en vont au Canada. Cependant, au fil des années, la tendance des départs est vers le Canada à cause de la proximité et des familles tout près de l'île. Mais voilà.
Et vous, une fois vos études finies, une fois exercé pendant quelques années votre métier, qui sera
Architecte d'intérieur, j'espère. Ouais.
Vous allez pouvoir revenir, peut-être. Ben, les intérieurs sont cossus à Saint-Pierre et on a le sens du confort intérieur.
J'espère.
Elisa, c'est moins sûr, archéologue. Encore que, il y a des sites formidables à exploiter à Saint-Pierre et qu'ils le seront peut-être au moment où progressera la candidature de Saint-Pierre-et-Miquelon au patrimoine culturel mondial de l'humanité. On peut applaudir Cédric Borter. Les élèves de Le Tournel peuvent dire que ces reportages, peuvent le dire par leur applaudissement, ont été remarquables. Merci à Rémi Sistiaga et à Audrey Ripouille qui s'est familiarisé avec l'accent saint-pierrais, à Frédéric Martin qui a préparé cette émission.